Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone, je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce vendredi 10 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question des faux concepts à l'égard des maladies psychiatriques, des antidépresseurs, de l'ONU qui conteste l'Irlande en matière d'avortement, des boîtes à bébés, des façons de faire du gouvernement contestées par les enseignants, des pitbulls, du fardeau fiscal des Québécois et la bonne nouvelle du jour. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du Figaro et qui s'intitule « Trop d'idées fausses sur les maladies psychiatriques ». On mentionne essentiellement dans cet article que la couverture médiatique des troubles mentaux est trop souvent réduite à des faits de violence, dénoncent des experts. On nous dit également qu'il y a plus de victimes que d'agresseurs. Par ailleurs, on rapporte que les malades psychiatriques sont 7 à 17 fois plus violentés que la population générale, selon les études. Maintenant, dirigeons-nous sur la plateforme de la presse. La plupart des antidépresseurs inefficaces chez les enfants et adolescents. Voici ce que l'AFP exprime sur la plateforme du journal La Presse. La plupart des médicaments antidépresseurs sont inefficaces, voire parfois dangereux chez les enfants et les adolescents souffrant de dépression majeure, selon une vaste étude publiée jeudi dans la revue médicale britannique The Lancet. Pour sa part, l'ONU fustige l'Irlande pour sa loi sur l'avortement. Voici ce que nous dit Sean Pogacnik de l'Associated Press sur la plateforme de la presse. Le rapport de 29 pages de la Commission des droits de la personne qui est installée à Genève accueille la plainte logée par Amanda Mellett, une résidente de Dublin, à qui on a refusé un avortement en 2011, même si son fœtus souffrait d'une malformation cardiaque qui l'empêcherait de survivre hors de l'utérus. L'Irlande autorise les avortements uniquement si la poursuite de la grossesse menace la vie de la mère. Dans toutes les autres circonstances, la femme est contrainte de mener sa grossesse à terme, même si le bébé est condamné à mort. La seule autre option est d'obtenir un avortement à l'étranger, habituellement au Royaume-Uni, où des milliers d'Irlandaises se rendent avortées chaque année. La commission onusienne, qui est composée de 17 experts menés par l'Argentin Fabian Salvioni, a déterminé que la loi irlandaise sur l'avortement contrevient au pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU et réclame une réforme en profondeur. La Commission n'a toutefois aucun pouvoir d'imposer quoi que ce soit à l'Irlande. Depuis 2013, des sondages démontrent que la population irlandaise est en faveur de l'avortement lorsque le fœtus n'a pas de chance de survie ou dans le cas de viol ou d'inceste. C'est quand même surprenant, mesdames et messieurs, que dans ce pays industrialisé qu'est l'Irlande, on autorise des avortements que lorsque la vie de la mère est en danger. Mais c'est très bien, c'est remarquable. Mais nous, au Canada, c'est très différent. Il n'y a aucune loi qui régit l'avortement, point. Ce qui arrive en Irlande, on se tourne vers le gouvernement et on dit « Oh, un instant, on devrait élargir les possibilités en ce qui concerne les avortements. On devrait permettre à une femme d'avorter si le fœtus n'a pas de chance de survie ou si une femme est enceinte suite à un viol ou un inceste. » Écoutez, mesdames et messieurs, si on avait ces restrictions-là au Canada, si l'avortement était légal seulement si la vie de la mère était en danger, si le fœtus n'a pas de chance de survie, si la femme est devenue enceinte suite à un viol ou dans un cas d'inceste, eh bien, on passerait de 25 à 30 000 avortements par année à 1 500-2 000 environ. Si on compare les statistiques avec d'autres pays qui ont, au prorata, ces résultats-là. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est même ces cas-là, ces restrictions-là, c'est inacceptable. On ne peut pas permettre un avortement parce que c'est un meurtre, point. Maintenant, beaucoup de gens qui sont pro-vie vont dire, si c'est la vie de la mère qui est en danger, si on a à choisir entre la mère ou l'enfant, bien, on va prendre la mère parce que la mère va pouvoir avoir d'autres enfants, elle va prendre soin de l'enfant. OK, on s'entend là-dessus. Mais vous allez me dire, Éric, j'espère que tu n'es pas en faveur à ce qu'on accomplisse un avortement lorsqu'une femme est tombée enceinte après un viol. Ce que je suis en train de dire, mesdames et messieurs, ce n'est pas ce qui est moralement acceptable ou inacceptable. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on passerait de 25 000 à 2 000. Si vous me dites que l'avortement, c'est un meurtre, on passerait de 25 000 meurtres à 2 000 meurtres. Vous ne pensez pas qu'on a un pas dans la bonne direction? Écoutez, si on avait ces restrictions-là et on se limitait à ça, eh bien, on réduirait considérablement le nombre d'avortements au pays. Mais ce qui arrive, savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Il n'y a aucun gouvernement qui veut ouvrir la porte à l'avortement. Ni les libéraux, ni les néo-démocrates, ni les conservateurs, ni le Parti vert, aucun parti ne veut toucher ce sujet-là. Ce qui arrive aux États-Unis, spécialement dans l'Indiana, eh bien, il y a des femmes, au lieu d'avorter leur enfant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont accoucher puis ils vont porter leur bébé dans une boîte devant un poste de pompier. Mais là, ça suscite des réactions et c'est ce que la presse nous apprend. Les représentants du service de protection de l'enfance de l'Indiana ont demandé à une organisation de retirer les deux boîtes qu'elle a placées devant des casernes de pompiers afin que des mères puissent y abandonner leur nouveau-né non désiré de manière anonyme, les estimant peu sécuritaires et prévenant que des accusations pourraient être déposées contre leurs utilisatrices. Madame Bonaventura, des services de la protection de l'enfant, a toutefois souligné, mesdames et messieurs, selon les informations contenues dans cet article, que le nouveau-né devait être laissé entre les mains d'un fournisseur de services médicaux d'urgence comme un pompier, un policier, un ambulancier ou un technicien en soins médicaux d'urgence. Elle a affirmé que la loi ne permettait pas de tout simplement abandonner un enfant sur les lieux de travail de ces personnes. Donc, ce n'est pas contre le fait de donner cet enfant-là à un pompier ou à un autre technicien en soins médicaux d'urgence, mais de le mettre dans une boîte comme ça devant la porte et se sauver. Alors, il y a des risques, évidemment, il y a des risques. Imaginez s'il y a un réseau clandestin ou un réseau de criminels qui viennent prendre l'enfant, puis on s'en sert après lorsqu'il est devenu un peu plus grand comme esclave, etc. Ou on ne sait pas ce qui peut arriver. Maintenant, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir dans les médias, tout ce qui peut se passer, toutes les atrocités, eh bien, c'est important que cet enfant-là soit donné en main propre. Qu'est-ce qu'on peut lire sur la plateforme du devoir? Eh bien, la façon de faire du ministère critiquée par des enseignants. La saga de l'examen final de sixième année en mathématiques. Eh bien, parce qu'on a dévoilé le sujet qui allait être touché dans l'examen de mathématiques de sixième année, eh bien, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a décidé de ne pas comptabiliser cette partie de l'examen. Pourquoi le thème a été dévoilé? Eh bien, c'est parce qu'il y a des enseignants qui, année après année, réalisent qu'une des sections de l'examen de mathématiques est très peu réussie à travers l'ensemble du Québec. Et donc, on dit il faut qu'il y ait un nettoyage là-dedans. Et même certains vont jusqu'à dire ça ne devrait pas être au ministère de l'Éducation de mettre au point les examens. Ça, mesdames et messieurs, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. On pourra en reparler un peu plus longuement, éventuellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas envoyé la copie de l'examen ou expliqué comment résoudre le problème. On a donné le sujet. Maintenant, certains disent que le ministère a décidé d'annuler cette section-là pour justement éviter qu'il y ait d'autres échecs. Ils se sont donc servis de ce qui s'est passé dans les médias pour arriver à leur fin. Alors, c'est un débat à suivre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut lire sur la plateforme du Journal de Montréal? Eh bien, on parle de pitbull. Eh oui! Québec songe à imiter l'Ontario. Voici ce qu'on nous dit dans le Journal de Montréal. Le gouvernement Couillard a finalement annoncé la mise sur pied d'une table de travail qui réunira des intervenants des ministères de la Sécurité publique et de l'Agriculture, de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités. Mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. On en parle également dans un article écrit sous la plume de Denise Bombardier et qui est intitulé « Des hommes et des bêtes ». Et j'ai retenu ces propos qui sont fort éclairants, mesdames et messieurs. La façon de traiter les animaux révèle l'homme. Protéger les animaux, voire leur accorder des droits, est tout à l'honneur de l'homme. Mais on ne peut pas abolir les différences entre un être pensant et un animal sans accentuer la déshumanisation qui nous guette tous et qui nous fait perdre l'essence qui nous distingue de l'animal. Eh bien, à ceci, je répondrai ce que M. Gary Ezzo a déjà mentionné, c'est qu'il y a une différence entre l'être humain et le règne animal. Parce que dès le début de la création, on voit que quand Dieu crée toute chose, que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, il le crée par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais lorsqu'il crée l'être humain, lorsqu'il crée l'homme, il le crée à partir de la poussière par le souffle de sa bouche. Il le crée d'une façon distincte. Mais savez-vous quoi? Elle ajoute d'autres propos qui sont fort intéressants. Elle nous dit ceci. Le ministre Pierre Paradis a doté le Québec d'une meilleure loi pour protéger les animaux. Bravo! L'heure est maintenant à la protection des humains. Et c'est exactement ça, mesdames et messieurs. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit avoir la liberté maximale dans notre nation. Mais là où est-ce qu'il y a une limite, là où est-ce que le gouvernement a un rôle à jouer, c'est au niveau de notre protection de la sécurité publique. Et là, la question des pitbulls nous amène à réfléchir sur son encadrement. Est-ce qu'on doit limiter, par exemple, la vente des pitbulls? Est-ce qu'on doit éliminer la race des pitbulls au Québec? Est-ce qu'on doit interdire l'achat et la vente des pitbulls, la possession des pitbulls? Est-ce qu'on doit, justement, évaluer la condition du pitbull? Moi, je suis en faveur de ça. Moi, je suis en faveur de ce que, lorsqu'on a un pitbull, pour avoir une médaille spéciale, d'une forme spéciale et d'une couleur spéciale, pour identifier que c'est un pitbull en règle, qui est muselé, eh bien, il doit passer un test d'agressivité. Et s'il échoue le test d'agressivité, donc s'il est démontré comme étant agressif, eh bien, on doit euthanasier ce pitbull. S'il répond bien, si on voit qu'il a été bien éduqué, bien dressé, eh bien, à ce moment-là, il pourra demeurer sous la garde de son maître, avec des restrictions, évidemment, comme être muselé, avoir une clôture barrée pour que le pitbull demeure dans la cour et ne soit pas en contact avec les êtres humains, etc. Mais ça, ça ne satisferait pas Mario Dumont, puisqu'il a écrit un article qui s'intitule « Pitbull, une réaction insuffisante ». Voici ce qu'il dit. Et je trouve ça savoureux ce qu'il dit. Les défenseurs du pitbull disent que le problème est entièrement à l'autre bout de la laisse. Selon eux, de bons dresseurs peuvent faire du pitbull un excellent chien domestique. Cela ne répond d'aucune façon à l'enjeu de la dangerosité. Certains dresseurs mettent à leurs mains des tigres, des lions ou des ours. Leur savoir-faire impressionne, mais ne les autorisera jamais à amener de telles bêtes au parc. Et c'est savoureux, mesdames et messieurs. Est-ce que vous seriez terrifié de voir, par exemple, quelqu'un se promener avec un tigre au parc, avec un lion au parc? Eh bien, mesdames et messieurs, je trouve que le parallèle est fort judicieux. On a beau dresser des bêtes sauvages, on a beau bien les éduquer, mais on ne sait jamais à quel moment cet animal sauvage peut, en bon québécois, péter sa coche. Et puisqu'on parle de péter sa coche, parlons maintenant de sacoche. Eh oui, on est en plein sacoche, comme on dit en québécois. Parce que j'aimerais vous lire un extrait d'un article qui est écrit par Nathalie Elgrabli-Lévy, qui s'intitule « En avoir pour son argent ». Voici ce qu'elle dit. « Ainsi, si nous devions payer tous nos impôts en un seul versement, il nous faudrait travailler du 1er janvier au 12 juin. La libération est arrivée le 7 juin pour la famille canadienne moyenne et le 17 mai pour la famille albertaine. Laissez-moi vous expliquer ce qu'elle dit. Supposons que vous allez voir votre employeur et vous lui dites « Maintenant, je veux que tu me verses aucun sou tant que tous mes impôts ne seront pas entièrement payés. Alors, à partir du 1er janvier, tu payes mes impôts. » Ce qui veut dire qu'un Québécois recevrait ce qui lui est dû à partir du 13 juin. Donc, du 1er janvier au 12 juin, la paye sert à payer les impôts. Mais ce qu'elle démontre, c'est que dans l'ensemble du Canada, cette réalité-là arrive plus tôt dans l'ensemble du Canada. On parle du 7 juin pour l'ensemble du Canada et du 17 mai pour la famille albertaine, ce qui démontre qu'on paye plus d'impôts que l'ensemble du pays. Mais, savez-vous quoi? Lorsqu'on parle d'argent, ça peut nous décourager. Mais, mesdames et messieurs, pour terminer les grands titres du jour, laissez-moi vous lire cette bonne nouvelle. UPS remet un don de 200 000 $ au Club des garçons et filles du Canada. Voici ce que nous dit Newswire.ca à cet effet. Le don servira notamment à soutenir le programme UPS Road Code, une initiative de sécurité routière qui permet à UPS de partager son expertise en matière de conduite préventive bénévolement. Ça, c'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Félicitations à UPS. Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés à ces articles sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à lundi.